le Comité des droits de la propriété intellectuelle et de la technologie est de retour pour son podcast numéro 2 avec Naila et Julien de chez BCF. Et pour le deuxième podcast, je serai accompagnée d'Imen. Moi, c'est Daliane, pour parler un petit peu du parcours chez BCF, de la pratique, des différents là, côtés de l'API qui peuvent toucher à travers la pratique en droit et comme agent de brevet là, chez BCF.
Exact. Donc, on va approfondir un peu plus vos pratiques à vous et en savoir un peu plus aussi sur vos rôles. Donc, on se demandait quels étaient vos mandats typiques, si on veut, vos rôles conseils, par exemple, et on a mentionné précédemment à l'occasion de notre dernier podcast, notre dernier épisode, que vous faisiez affaire aussi avec différents clients, qu'on parle de start-up, de grandes entreprises, de PME. Donc, peut-être aussi en savoir un peu plus par rapport à votre approche face à ces clients-là, par exemple. Quelle est l'approche que vous auriez envers une start-up versus une plus grande entreprise? On vous écoute.
Merci de nous recevoir à nouveau pour ce second podcast ensemble. Je vais peut-être commencer par répondre sur le côté de la pratique d'un agent de brevet, qui est un métier assez niche, finalement, qui est à la convergence du domaine technique, scientifique, ingénierie et juridique. Le métier fondamental de l'agent de brevet, c'est d'être capable d'identifier des inventions lors de développement technologique. Et ça peut toucher différents domaines. Hein. Ça va de recherche, l'activité de R&D dans le domaine pharmaceutique, chimique, au domaine mécanique, à la conception de nouveaux produits, mais aussi aux technologies de l'information. Et personnellement, donc, je me spécialise principalement en logiciels et technologies de l'information. Un des premiers aspects fondamentaux de mon travail, c'est de pouvoir m'asseoir avec les équipes de développement, avec les équipes techniques, et d'identifier dans les efforts de R&D qu'ils ont effectués, les candidats à une protection par brevet. Essentiellement, d'identifier une invention qui rencontre les critères d'éligibilité définis par la loi et le droit des brevets. Généralement, on parle de nouveautés, activités inventives, utilité en droit canadien. Et l'idée, c'est d'identifier si un développement donc, rencontre ces critères pour être qualifié d'invention et donc être potentiellement brevetable. Donc ça, c'est une analyse purement technique et juridique. Un prisme très important quand on fait ce genre d'exercice pour des compagnies, notamment pour des compagnies technologiques qui ont des budgets limités, c'est de se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un bon business case pour faire un brevet sur cette invention. Parce que c'est une chose de pouvoir être capable d'aller chercher un brevet sur une technologie, c'en est une autre de dire, OK, est-ce qu'on crée de la valeur avec cet actif-là? Est-ce qu'il y a un intérêt d'affaires à investir de l'argent dans l'obtention d'un brevet sur une technologie donnée? Un des aspects fondamentaux de notre travail, c'est justement cette activité de conseil, d'identification et ensuite d'accompagner le client dans sa prise de décision, à savoir est-ce qu'on va de l'avant avec une protection par brevet ou non. Donc ça, c'est pour le premier aspect. Pour le second aspect, dans la pratique classique d'un agent de brevet, c'est justement une fois qu'on a identifié cette invention brevetable, on va valider certains points et formuler une opinion de brevetabilité, notamment en validant la nouveauté, l'activité inventive, qu'on fait généralement en faisant des recherches d'art antérieur. Donc, on travaille avec des chercheurs externes, on leur présente ce qu'on pense être l'aspect nouveau et on veut valider la nouveauté par rapport à ce qu'on appelle l'art antérieur. L'art antérieur, c'est essentiellement l'état des connaissances qui sont disponibles publiquement le jour où on dépose notre demande de brevet. Donc, si cette recherche nous permet d'identifier et de rencontrer les critères de nouveauté et d'activité inventive, on va de l'avant avec la rédaction d'une demande de brevet. Donc ça, c'est un autre aspect aussi important de la vie d'un agent de brevet. C'est une capacité à rédiger et à communiquer par écrit des concepts techniques qui peuvent être parfois complexes. Quand on est des technos comme de l'IA pure, il faut être capable d'expliquer de façon structurée et détaillée, avec suffisamment de détails pour qu'une personne versée dans l'art puisse reproduire l'invention, décrire cette invention-là. Et l'autre partie, et la partie juridique, c'est d'établir la portée des droits qu'on va rechercher. Donc à la fin d'une demande de brevet, après la partie technique, on a la partie juridique qu'on appelle les revendications. Et ça, c'est ce qui définit la portée du monopole qu'on va essayer d'obtenir avec le brevet. Donc c'est aussi le travail de l'agent de brevet de les rédiger, de réfléchir à une stratégie de comment on va essayer de maximiser le monopole qu'on cherche à obtenir. Et une fois que ce travail est fait, on se retrouve avec une demande de brevet qui est prête à être déposée. Et suite à ça, il y a toute une stratégie à discuter avec le client de est-ce qu'on la dépose une fois au Canada, est-ce qu'on a intérêt à obtenir des droits dans d'autres juridictions, et on a toute une série de mécanismes dans lesquels on ne va peut-être pas rentrer aujourd'hui, de traités internationaux qui vont nous permettre de mettre en place des stratégies de protection internationale. Donc une fois que cette stratégie est en place, notre rôle aussi est d'accompagner les clients dans les procédures d'examen. Donc, une fois qu'une demande de brevet est déposée au bureau canadien, américain, européen, il y a une procédure d'examen qui est en cours. Et notre rôle est d'accompagner le client dans ces procédures, répondre aux arguments des examinateurs, faire les modifications à la demande de brevet jusqu'à l'obtention d'un titre délivré. Ça, c'est vraiment la compétence cœur de l'agent de brevet. Au-delà de ça, au cours des années, j'ai développé une activité de conseil et d'accompagnement. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les compagnies technologiques pour mettre en œuvre une stratégie de propriété intellectuelle. Donc, pas juste de dire « Ok, on a une invention, dépose un brevet ». Ça, c'est quelque chose qu'on se retrouve plus à faire si on travaille pour une grande multinationale où ils ont des équipes à l'interne qui gèrent toutes les stratégies de pays et ils utilisent les cabinets plus comme des fournisseurs de services à la chaîne où on rédige des brevets, on dépose des demandes, on obtient des brevets et on rate un peu la big picture de la stratégie. L'avantage quand on travaille avec des startups ou des moyennes entreprises, c'est que là, on se retrouve à être le département interne, dans le sens où notre rôle est avant tout de les aider à créer de la valeur. Et en créant de la valeur, ça se base sur aligner la stratégie de propriété intellectuelle avec la stratégie d'affaires de la compagnie. Et ça peut se manifester sous différents angles. Ça peut être des questions de valorisation, donc de préparer des compagnies pour du financement ou même des rachats, et aussi de supporter des stratégies commerciales, d'accompagner les clients sur positionner leurs technologies et produits par rapport aux brevets des autres, identifier des opportunités pour obtenir leurs propres brevets, pour bâtir un avantage compétitif. Donc tout ce travail de conseil-là, on se retrouve généralement à le faire avec, comme je disais, donc start-up et PME. Donc c'est un travail qui, à la base, est un métier d'expert, mais qui, je pense, peut être exercé et mené à une évolution vers du conseil plus stratégique et plus orienté à faire. Ce que j'adore faire, par ailleurs. Donc voici, pour la vie d'un agent de brevet, ma vie d'agent de brevet.
Oui, merci beaucoup. On vous écoute, Naila.
Parfait. Donc, l'avocat qui travaille en propriété intellectuelle, ses mandats vont dépendre de dans quel département il travaille, puis c'est quoi sa pratique de base. Donc, un avocat qui est en litige, puis qui se spécialise en propriété intellectuelle, c'est un avocat qui va être amené à représenter le client dans différents mandats. Par exemple, si son client à lui se fait poursuivre pour contrefaçon de brevet, il va pouvoir le représenter devant les tribunaux. Un avocat en droit commercial qui se spécialise en propriété intellectuelle est un avocat qui va pouvoir assister son client dans plusieurs mandats. Par exemple, en transactionnel, il va pouvoir assister son client qui est en train d'acheter une autre compagnie pharmaceutique, à savoir si la compagnie qu'on est en train d'acheter a ses droits de propriété intellectuelle. Est-ce que ces droits de propriété intellectuelle valent quelque chose? Est-ce qu'ils sont tous bien enregistrés? On peut aussi assister dans des mandats de transactionnel, regarder les contrats des employés de la compagnie, voir s'ils ont donné les droits de propriété intellectuelle à cette compagnie-là. Donc, ça, c'est plus du côté transactionnel. Du côté commercial, on va regarder des contrats entre deux compagnies, par exemple des contrats de collaboration. On va aller regarder les clauses, si notre client est bien protégé, ou si l'autre compagnie, est-ce que c'est fair? Est-ce qu'on arrive au but, dans le fond, qu'on s'était mis dans nos négociations? Donc, ça, c'est du côté commercial, vraiment. Puis, c'est ça, c'est du côté commercial ou du côté transactionnel qu'on va plutôt voir la propriété intellectuelle du côté du droit des affaires.
Donc, depuis le début, là, on comprend vraiment que, finalement, la PI, là, c'est un domaine très, très vaste puis qui peut s'appliquer à vraiment tout plein de domaines de droit. Un peu pour continuer de ce côté-là, quelles sont vos opportunités de collaboration avec les autres départements, avec les autres spécialistes en PI? Comme Julien a dit tout à l'heure, là, parfois, certains aspects de la PI peuvent se recouper, comme les droits d'auteur, les brevets. Donc, vous pouvez continuer là, pour l'aspect collaboratif entre tous les professionnels en pays et dans les autres domaines de droit.
Ben, tout à fait. Puis je repartirai d'une observation qui a été publiée par l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle, c'est qu'au début du XXe siècle, la majeure partie de la valeur d'une compagnie, c'était ses actifs tangibles. C'est-à-dire les bâtiments, les terrains, les usines, les machines définissaient la valeur intrinsèque d'une compagnie, d'une société. Aujourd'hui, en 2022, on estime à environ en moyenne 80% de la valeur basée sur des actifs intangibles, qui sont par définition des actifs de forme de propriété intellectuelle, que ce soit du savoir-faire, des secrets, des brevets, des marques de commerce. Donc on se retrouve finalement dans le domaine du droit des affaires à accompagner des sociétés dont la majeure partie des actifs se retrouvent être une forme ou une autre de droit de propriété intellectuelle. Et donc, généralement, ça amène les praticiens du droit des affaires à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, à collaborer avec leurs experts en propriété intellectuelle. Et du coup, ça nous amène la chance de collaborer avec nos groupes d'avocats en droit commercial, que ce soit dans le cadre contractuel ou du cadre de fusion-acquisition, de transactionnel, mais aussi avec des fiscalistes, par exemple. On a des enjeux de fiscalité liés aux actifs de propriété intellectuelle. Comment on optimise les structures de portefeuille de propriété intellectuelle, de licence intragroupe, afin d'optimisation fiscale, par exemple. Donc, j'ai oublié aussi, mais on se retrouve dans des situations qui peuvent être litigieuses, donc aussi une collaboration avec nos amis du département de litige. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve être au cœur de l'échiquier, de par la nature et l'évolution de l'économie d'aujourd'hui.
Super, merci beaucoup. Pour faire un ricochet avec ce que vous venez de dire, pourriez-vous nous parler un peu des défis de votre pratique, justement? Donc, on parle beaucoup de multidisciplinarité, mais auriez-vous aussi d'autres enjeux ou d'autres défis auxquels vous pouvez être confronté, justement?
Le défi qui est aussi la plus grande opportunité de notre métier, c'est la curiosité et l'envie constante d'apprendre, parce qu'on se retrouve à être à l'avant-garde des développements technologiques. Et ça prend nécessairement cette curiosité et cet investissement pour développer les connaissances techniques nécessaires pour comprendre ce sur quoi les clients travaillent et leurs enjeux à la fois techniques, juridiques et commerciaux. On parle d'intelligence artificielle, d'ordinateur quantique. Au-delà de mots à la mode, derrière, il y a des concepts techniques qui sont complexes et qui sont, pour nos métiers, nécessaires de maîtriser avec un certain niveau de granularité pour pouvoir fournir un conseil pertinent aux clients. Donc ça, c'est, un des enjeux, mais aussi la plus grande opportunité en termes de stimulation intellectuelle.
Et pour vous, Néla?
Oui, pour ma part, je rajouterais que c'est vraiment à notre niveau puis à notre stade. Moi, je suis quand même une jeune avocate. C'est de créer des liens, dans le fond, dans sa tête, de se dire, OK, j'ai cet enjeu devant moi, puis je ne pense pas que ce soit simplement un enjeu juridique. C'est ça le fun aussi de travailler chez BCF. On dit que, ben, dans le nom, c'est BCF avocat d'affaires, mais ce n'est pas parce qu'on fait juste du droit des affaires. C'est parce qu'on est des conseillers d'affaires, puis on apprend à être des conseillers d'affaires, puis conseiller notre client, non seulement du côté juridique, de donner une bonne réponse de droit, mais de trouver des solutions peut-être innovantes et au-delà des frontières du juridique. Et c'est ça qui est le fun chez BCF, c'est parce qu'on ne travaille pas juste en silo. Quand on veut conseiller un client, on peut être plusieurs, de plusieurs secteurs différents, puis de se dire, OK, ben ça, c'est le problème du client. Notre solution juridique serait ça, mais est-ce qu'on peut pousser cette frontière puis se dire, OK, on comprend vraiment la situation du client puis l'industrie peut-être dans laquelle il travaille, puis aller chercher des solutions qui vont être une plus-value pour le client. Et c'est ça aussi que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a un immense département de brevets dans lequel les gens sont extrêmement formés dans plein de domaines diversifiés. On est un cabinet qui a énormément de services juridiques différents, que ce soit de la fiscalité, comme Julien mentionnait, du droit de l'environnement, du droit commercial, etc. Donc, on peut être plusieurs autour de la table à chercher la meilleure solution pour le client. Puis ça, Ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, mais c'est un défi au début aussi d'essayer de penser puis de faire les liens, à savoir ben, c'est quoi que ça prend.
Pour rebondir sur ce que tu disais aussi, je pense que ça revient à l'ADN même de BCF. BCF, c'est un grand cabinet qui est relativement jeune, on parle d'environ 25 ans d'années d'existence, et qui a été créé par quelques individus, avocats de droit des affaires, visionnaires, qui se sont lancés dans l'aventure d'essayer de bâtir un grand cabinet, mais avec une approche et une vision différente. Et ça a fonctionné. Cet ADN entrepreneurial-là a vraiment permis une croissance assez fulgurante. Ils sont passés de 7-8 à la création à presque 500 employés total aujourd'hui au travers entre Québec et Montréal. Et ce développement s'est fait aussi par les clients qu'on a accompagnés, donc clientèle essentiellement d'entrepreneurs. Et je pense que c'est ce qui a nourri BCF et c'est ce qui définit encore aujourd'hui son ADN et qui est, je pense, un élément différenciant de peut-être d'autres grands cabinets établis depuis plus longtemps.
Génial. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Puis peut-être pour terminer ce deuxième épisode, pour les étudiants qui veulent démarrer une carrière en pays, là, puis peut-être qui n'ont pas nécessairement un background scientifique ou ceux qui en ont aussi, est-ce que vous auriez quelques trucs, peut-être des pistes d'expérience à aller chercher pour se développer de ce côté-là, là, vraiment dans la pays? Puis vraiment là, vos trucs d'anciens étudiants puis anciens adeptes de pays ou de droit qui veulent se lancer là, dans le vide pour un domaine qu'ils ne connaissent pas nécessairement beaucoup.
Absolument, avec plaisir. D'ailleurs, un des mythes puis des questions que je me fais poser, c'est est-ce que tu apprends nécessairement un bac en biochimie pour être avocat en propriété intellectuelle? Pas du tout. Ça prend quelqu'un de curieux, ça prend quelqu'un qui est prêt à mettre le temps puis l'énergie d'aller chercher et comprendre les nouvelles technologies, qui est intéressé aussi à ça. Donc, un des trucs que je vous dirais, c'est d'être à l'affût des nouvelles technologies puis de s'y intéresser vraiment. C'est le fun d'aller dans un souper puis dire « oui, je suis avocate de pays », mais si ça ne vous passionne pas vraiment, ça va être longtemps comme carrière. Puis, au niveau des cours, etc., ce que moi, je conseillerais, par exemple, ce serait vraiment de s'impliquer dans le domaine. Je sais qu'il y a des concours de plaidoirie, qui sont offerts pour les étudiants au bac. J'en avais fait un pour le LASQIN, mais je sais qu'il y en a un pour la propriété intellectuelle, qui était le concours FOX, si je ne me trompe pas. Vous pouvez prendre des cours en propriété intellectuelle, puis si ça vous intéresse, demandez un assistanat de recherche, peut-être avec votre prof, ou juste quelque chose de séparé qui est supervisé par un professeur du département. Assistez à des colloques, des conférences, allez les chercher par vous-même, n'attendez pas peut-être que quelqu'un vous dise « oh, je sais que tu es intéressé par l'API, j'ai ça pour toi ». Soyez vraiment proactifs, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par ce domaine, puis ça demande un peu de proactivité et d'entrepreneuriat un peu dans votre propre carrière. Donc, allez-y à fond. Il n'y a pas de mauvais step que vous pouvez prendre ou de mauvaise activité ou de bonne activité. Toutes sont bonnes pour essayer de vraiment clarifier et spécifier ce qui vous intéresse. Comme je vous avais décrit, moi, j'avais fait plusieurs stages dans plein de départements différents, puis le privé, le public, en droit de la santé, en droit plus général. Puis c'est ça qui m'a permis de mettre le doigt sur ce qui m'intéressait. Et ça, même si j'avais travaillé en industrie, puis même si j'avais étudié, je ne savais pas nécessairement ce qui m'intéressait. Donc, allez-y avec des stages. Puis les stages, je ne vous dis pas juste de la course au stage. J'avais appliqué à des cabinets qui sont un peu partout en Europe. Puis j'ai comme, ben, si quelqu'un me répond, tant mieux. Allez-y au-delà des frontières qu'on a tendance à se mettre, puis allez chercher vous-même vos expériences, que ce soit à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, comme on en parlait, au CIPO, dans des cabinets étrangers. Ne vous limitez pas à ce qu'on se dit que, oh my God, ça va juste jamais fonctionner. Allez-y, puis au pire, c'est un refus, mais on aura essayé.
Naïla, je pense que tu as couvert plusieurs points que je pense aussi très importants. Je pense que fondamentalement, ça prend une grande curiosité. Je ne pense pas que ce soit nécessaire et un prérequis d'avoir une formation technique ou scientifique à la base. On a plusieurs exemples de gens qui ont eu des superbes carrières en domaine de propriété intellectuelle, qui ont fait des bacs en musique ou en économie, mais pas, qui n'étaient pas ingénieurs ou scientifiques de formation. Par contre, ils avaient tous en commun cette curiosité, cet intérêt pour la technologie. Puis, vous voyez pas la technologie comme seulement une affaire d'ingénieur. Je pense qu'on vit à une époque où on a des enjeux devant nous qui sont énormes et qui vont nécessiter de réinventer des choses. Je pense que les années qu'on a devant nous sont à la fois épeurantes parce qu'on a des grands enjeux qu'on doit adresser, mais aussi très stimulantes parce qu'on est dans une situation où il va falloir qu'on crée des solutions aux problèmes qu'on a nous-mêmes créés. Et je pense que ce n'est pas simplement une question pour les ingénieurs, que des juristes qui ont cette curiosité-là peuvent aussi contribuer et en développant une expertise et une connaissance de la propriété intellectuelle pour accompagner au mieux leurs clients. Il ne faut pas aussi se limiter à l'aspect local. La chance de la pratique en propriété intellectuelle, c'est que par nature, elle est très internationale. Donc, on se retrouve quotidiennement à être impliqué, dans le cas d'un agent de brevet, dans des procédures devant le bureau européen, des brevets, avec des correspondants au Japon ou en Chine. Et donc, la nature de la pratique est très internationale. Donc, si dans votre parcours universitaire, vous avez la chance de faire des stages à l'étranger, allez-y. Il y a des opportunités, elles sont très enrichissantes. Et c'est des expériences et des liens sur lesquels vous allez pouvoir capitaliser toute votre carrière.
Super, merci beaucoup. C'était absolument très intéressant et formidable. Merci. Je voudrais remercier également ma collègue Daliane et le CDP de nous avoir guidés et accompagnés à travers cette expérience. Donc, nous vous remercions une fois de plus et ce fut un réel plaisir de vous avoir chez nous. Merci.
Merci. C'est réciproque. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Un immense merci pour l'invitation.
Merci à vous. Puis c'est ça, c'est ce qui conclut le deuxième épisode là, du podcast du CDPI. Donc, en espérant que le tout continue. Puis à la prochaine.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
À la prochaine.